remercie. Je remercie les organisateurs d'avoir retenu ma proposition. Je partirai d'un ouvrage récent du sociologue allemand Armut Rosa, qui s'appelle « Accélération », qui évoque le phénomène de réduction de ce qu'il appelle les ressources temporelles comme conséquence de l'accélération qu'il observe dans nos sociétés. Et mon propos est d'interroger les présupposés d'une telle conception du temps en termes de ressources, qu'on peut avoir ou non, qu'on peut posséder en plus ou moins grande quantité, qu'on peut économiser ou gaspiller. Ensuite, je voudrais analyser la notion d'urgence, comprise donc de prime abord, je préciserai cette définition, comme un épuisement des ressources temporelles qui semble affecter les individus à travers le sentiment de manquer de temps dans la vie, leur vie professionnelle et privée. Le paradoxe de l'urgence qui est intéressant, c'est que en fait, plus on dispose de moyens techniques pour gagner du temps, à travers les transports, à travers les nouvelles techniques d'information et de communication, moins on en a, ou en tout cas plus on a le sentiment d'être débordé. Il y a des études statistiques qui montrent que le sentiment de manquer de temps augmente, et même selon une enquête Ipsos d'avril 2011, ce serait la préoccupation numéro un des Français, quelle que soit leur situation professionnelle, leur âge. Bon, pour revenir au paradoxe que j'évoquais, si le temps est une ressource, il est une ressource bizarre, puisqu'elle semble s'épuiser à mesure qu'elle augmente. Donc j'essaierai de revenir un peu sur ce paradoxe. Alors, le point de départ, le temps comme ressource. Alors, on peut évoquer un petit essai de Heidegger, qui s'appelle « La question de la technique », qui date de 1953, où Heidegger définit l'essence de la technique moderne comme l'arraisonnement de la nature, ce qu'il appelle l'arraisonnement de la nature, qui est mise en demeure de livrer une énergie qui puisse, comme telle, être extraite et accumulée. Donc, l'idée de Heidegger, c'est que la technique dévoile la nature comme un fond, un réservoir d'énergie à exploiter, une ressource à exploiter. Ainsi, le Rhin est considéré comme une réserve d'énergie pour la centrale hydraulique, la forêt noire comme une réserve de matières premières pour l'industrie du bois, telle région est considérée comme un bassin houillé, etc. etc. Et dans ce dispositif, l'homme est à la fois celui qui arraisonne et celui qui est arraisonné, puisqu'il fait lui-même partie du fond, il constitue une réserve d'énergie pouvant être exploitée. Et d'ailleurs, à ce propos, il faudrait s'interroger sur l'expression de management, ressources humaines, qui a une certaine ambivalence. Pour Heidegger, c'est la physique moderne et son projet de mathématisation de la nature, initié par Galilée au début du XVIIe siècle, qui a préparé ce phénomène d'arraisonnement. La physique moderne est le précurseur de l'arraisonnement. Mais on peut se demander si le rôle de l'économie, en particulier du capitalisme, n'est pas aussi, indispensable à mentionner, puisque dans l'exploitation des forêts, par exemple, on le sait, on exploite des forêts aujourd'hui au risque de les détruire pour générer des bénéfices financiers. On fabrique des barrages qui parfois peuvent détruire des écosystèmes pour faire fonctionner une industrie toujours plus vorace en énergie. Donc si la physique moderne a participé au projet de se rendre maître et possesseur de la nature, selon la formule de Descartes, elle n'en est pas la seule origine. Et on pourrait dire que le capitalisme a utilisé certains résultats de la physique comme un moyen très efficace pour augmenter la productivité par la fabrication de machines toujours plus sophistiquées ou de moyens de transport toujours plus rapides. Alors, maintenant, je reviens à la question du temps. Même si Heidegger ne l'a pas mentionné dans son essai, on peut dire que l'arraisonnement de la nature implique un arraisonnement du temps. C'est-à-dire que, à l'ère de la technique, le temps est devenu aussi une ressource qui doit être quantifiée, exploitée, optimisée de diverses manières. Et où se manifeste cet usage du temps ? Avant tout dans l'économie, dans les entreprises qui tentent d'optimiser le temps de production des machines, le temps de travail des salariés, ou aussi le temps de circulation des marchandises. L'urgence, c'est-à-dire, je reviendrai sur la définition, mais le fait d'agir de manière toujours plus rapide en un temps plus court, l'urgence suppose une logique d'économie du temps qui est souvent lié, pas toujours, mais souvent lié à une course à la productivité. Et ici, j'ai pas le temps de le faire, mais il faudrait évoquer dans l'histoire de l'économie les méthodes du taylorisme, du fordisme, et ensuite de ce qu'on a appelé le toyotisme et le néo-taylorisme, qui sont des techniques de management dont le but est de faire la chasse au temps mort, d'optimiser au maximum les différents le temps de travail des salariés. Ce qui entraîne des situations d'urgence, au sens où il faut agir toujours plus vite en un temps toujours plus court. Il y a un témoignage assez édifiant, mais qui date déjà des années 70, d'un journaliste japonais qui a travaillé 6 mois chez Toyota, dans un livre qui s'appelle « Toyota, l'usine du désespoir », où il raconte son expérience de travail à la chaîne sur les boîtes de vitesse. Alors, pour que le temps puisse être économisé, il faut qu'il soit déterminé comme une ressource et il faut aussi le mesurer avec une certaine précision. Alors sur ce point, il faut s'intéresser à l'histoire de la mesure du temps. Et ce qu'on constate, bon, c'est des points connus, c'est que les horloges mécaniques apparaissent au Moyen-Âge. Il semblerait qu'elles aient été créées dans les monastères et que finalement, elles aient été utilisées dans les villes et dans les fabriques. Et il y a des travaux bien connus de Jacques Le Goff qui expliquent que l'essor de l'horloge mécanique et de la mesure du temps de travail marque la transition du temps de l'Église au temps des marchands. Alors, sur ce point, il faut faire une distinction très importante entre deux idées, l'idée d'emploi du temps et l'idée d'exhaustion du temps. Et j'ai trouvé cette distinction dans des ouvrages de Foucault. En fait, l'emploi du temps qu'on trouve dans les monastères, c'est l'idée qu'il faut bien organiser son temps, que le temps est précieux, qu'il faut l'utiliser en l'organisant selon différents moments de la journée, de la semaine, etc. Mais ça suppose nulle urgence. Les moines ont un emploi du temps extrêmement déterminé, ils se lèvent même la nuit pour les prières, d'où la nécessité de faire des horloges d'ailleurs. Mais ils ne sont pas dans l'urgence, au sens où ils n'ont pas à se presser pour faire leurs prières, etc. Le principe d'exhaustion du temps, qui apparaît donc dans le cadre des entreprises, des fabriques, et qui va prendre son essor à la fin du XVIIIe et avec la révolution industrielle, c'est l'idée qu'à l'intérieur de cet emploi du temps, il faut optimiser, utiliser le plus possible les plages de temps qui sont dégagées. Ce n'est pas la même chose. Alors aujourd'hui, l'urgence est devenue, je dirais, une norme sociale du temps, c'est-à-dire une certaine manière d'user du temps et une norme sociale qui a tendance à devenir hégémonique au sens où on la trouve donc dans le domaine de l'économie avec certaines méthodes de management, dans l'industrie, mais aussi dans les services. Mais bien sûr, on la trouve en dehors, alors dans la médecine, on sait que les services d'urgence sont débordés, sachant que la notion même d'urgence médicale est une histoire assez tardive et que les services d'urgence sont mis en place au XXe siècle, tout au long du XXe siècle, et à partir des années 70-80, on a vu leur fréquentation exploser. Dans la politique, la rhétorique de l'urgence est très présente. À chaque fois que, bon, je caricature un peu, mais qu'un fait divers dramatique se produit, le gouvernement propose un plan d'urgence avec souvent à la clé une loi fabriquée dans l'urgence, au point qu'il y a des travaux, des réactions de juristes qui se plaignent de l'inflation législative et du manque de temps de cette logique de l'urgence dans la préparation des lois. Vous avez également une urgence dans la vie au quotidien, c'est-à-dire dans la vie professionnelle et privée, avec une accélération du rythme de vie, et ce point a été étudié par Armut Rosa dans son ouvrage, avec l'idée que les individus sont de plus en plus débordés, y compris dans leurs loisirs, comme si la norme de l'urgence ne se contentait pas de jouer son rôle dans la vie professionnelle, mais continuait de déterminer le comportement des individus également dans leur temps dit libre. Enfin, on peut dire qu'un des symptômes de l'envahissement de l'urgence dans la société est la situation actuelle de l'université. Ancien temple de la scolée, ce que les Grecs appelaient la scolée, du loisir studieux. Comme vous le savez, les universitaires sont de plus en plus débordés par des charges administratives de plus en plus nombreuses qui s'ajoutent aux enseignements, de sorte qu'il devient de plus en plus difficile de dégager du temps pour la recherche. Et les universitaires travaillent souvent dans l'urgence, c'est-à-dire il faut agir le plus vite possible en un temps le plus court possible. C'est d'ailleurs un peu ma situation, je vais essayer de ne pas déborder. C'est ce qui explique d'ailleurs, disons, l'importance d'une délégation à l'IUF, parce que qu'est-ce que l'IUF, sinon une sorte d'allocation de ressources temporelles avec la décharge qui était évoquée tout à l'heure, qui est tout aussi précieuse, à mon avis, que les crédits financiers de recherche. Et je pense que si l'IUF a tant de succès et s'y demander, c'est aussi parce que la pression temporelle sur les universitaires et la situation d'urgence dans laquelle ils se trouvent a considérablement augmenté. Alors maintenant, comment définir cette notion d'urgence? Je voudrais essayer de préciser le concept. D'abord, dire que ça me semble être une norme sociale, au sens où il n'y a pas d'urgence en soi, il n'y a pas d'urgence dans la nature. Dans la nature, vous pouvez définir vitesse, accélération, mais l'urgence est liée à un contexte social. D'autant plus que beaucoup de sociétés ne la connaissent pas. Il y a des sociétés primitives dans lesquelles la notion d'urgence n'a aucun sens. Même la mesure du temps n'est pas présente. Qu'est-ce que nous dit cette norme? Elle nous dit que le temps est comme un capital immatériel qu'on doit faire fructifier, qu'on doit rentabiliser comme une ressource rare, qui est d'autant plus difficile à rentabiliser que c'est une ressource difficile à capitaliser. C'est-à-dire que vous pouvez capitaliser de l'argent, mais capitaliser du temps libre, si vous dégagez du temps libre, par exemple en travaillant beaucoup le matin pour avoir du temps dans l'après-midi, ce temps libre, il faut l'utiliser tout de suite, parce qu'après, le lendemain, il ne sera plus là. Bon. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans l'urgence, vous avez l'idée de compression et de densification de la durée. C'est-à-dire, la compression de la durée, ça veut dire qu'il y a une deadline, on a moins de temps pour faire un certain nombre de choses. Et la densification, mais les deux phénomènes sont liés, c'est-à-dire que dans un temps donné, on a plus de choses à faire. Hein. Alors, à ce propos, il faudrait mentionner, j'ai pas le temps, mais le rôle, surtout pour les cadres, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et notamment donc, des tablettes tactiles, des smartphones, qui permettent, alors évidemment, ce sont des outils tout à fait utiles, mais qui sont un peu ambivalents au sens où ils mettent les salariés en situation de disponibilité permanente, presque sous une forme d'astreinte, au sens où ils peuvent recevoir des informations, les traiter en permanence. Et finalement, ces petits outils sont une technologie d'arraisonnement du temps également, au sens où ils permettent de densifier le temps, parce que vous savez que certains cadres reçoivent 200 à 300 emails par jour, donc le nombre de tâches à traiter augmente de manière quasi automatique, et en plus, il y a un phénomène de compression du temps, puisque souvent, les demandes des emails sont assorties de deadlines, c'est-à-dire de réponses à donner. Hein. Et ce phénomène, d'ailleurs, touche aussi les universitaires. J'étais pas très longtemps dans un colloque où je voyais un collègue à côté de moi qui suivait la conférence, qui traitait ses emails en même temps sur son smartphone et qui, en plus, écrivait sur sa tablette tactile sa conférence pour le lendemain. C'est ce qu'on appelle en management la polyvalence. Et en fait, il faisait ça tout simplement parce qu'il était débordé et que s'il ne traitait pas ses emails au fur et à mesure, quand il rentrait chez lui, c'était un colloque à l'étranger, eh bien, il se retrouvait avec un mur d'emails à traiter et ce n'était pas gérable. Hein, donc cette urgence, je dirais, cette e-urgence, cette urgence électronique, elle touche donc un certain nombre de personnes, y compris dans le milieu universitaire. Et finalement, si on veut préciser le concept d'urgence, vous avez compression, densification du temps, vous avez aussi un cadrage temporel, au sens où pour qu'il y ait urgence, il faut qu'il y ait une mesure du temps, il faut qu'il y ait des horloges, des calendriers qui soient installés. Mais ça n'est pas tout, il faut encore un autre élément, et qui souvent n'est pas bien identifié, qui dit urgence, dit menace, danger. Pour qu'il y ait urgence, donc on le voit bien dans le cas de l'urgence médicale, il faut qu'il y ait à l'horizon une menace implicite ou explicite. Pourquoi? Parce que sinon, quand on vous demande de vous presser, d'agir vite, ce qui est souvent assez désagréable, stressant, eh bien, s'il n'y a pas un danger, une motivation, une menace, on ne suit pas, on refuse d'obtempérer. Donc, je dirais que dans toute urgence, il y a un compte à rebours implicite, hein, un sablier qui est bientôt vide et qui fait qu'il faut se presser le plus possible. Donc, si je résume, je dirais que l'urgence est un dispositif temporel qui se déroule en trois temps. Il faut donc identifier un danger assorti d'un compte à rebours. Il y a toujours dans l'urgence un scénario alternatif qui permet d'éviter ce danger. Hein. Je dirais qu'il y a quelque chose d'optimiste dans l'urgence, malgré tout, parce que si vous êtes fataliste, s'il n'y a pas de scénario alternatif, ça ne sert à rien de se presser. Et enfin, il faut, c'est la conséquence, agir sans délai, immédiatement, il faut se mobiliser. C'est pourquoi, dans l'urgence, il y a l'idée aussi d'immédiateté. Alors, il y a des questions qui se posent à propos de cette notion. Est-ce qu'il y a des fausses urgences, des vraies urgences ? On trouve ça dans les travaux de sociologie. Et je crois qu'il faudrait essayer de dégager des critères pour distinguer des vraies ou des urgences réelles ou fausses. Je signalerai trois questions qui peuvent être des éléments. Quelle est la menace ? En fait, quand on est soumis à une urgence, on n'est pas censé avoir le temps de réfléchir pour y répondre. Mais on peut se poser la question de savoir est-ce que la menace est réelle ? Est-ce que la deadline est fictive ou non ? Est-ce que l'urgence est provoquée intentionnellement ou est-ce que c'est un impondérable qui s'impose ? Enfin, quelle est la finalité de l'urgence ? Pourquoi est-ce qu'on doit se presser ? Est-ce que c'est pour sauver des vies ? Est-ce que c'est pour augmenter la productivité ? Ce type de questions me semble important. Enfin, la dernière remarque que je voudrais faire sur ce concept d'urgence, c'est qu'il faut distinguer une urgence circonstancielle d'une urgence généralisée. Le propre de l'urgence, normalement, c'est d'être exceptionnel. C'est le cas de l'urgence médicale, c'est le cas de l'état d'urgence en droit, alors que le problème de l'urgence se pose quand d'exception devient une règle, c'est-à-dire une sorte de rapport normal au temps. On vous envoie un email en vous demandant de faire quelque chose pendant 3 jours, vous êtes dans l'urgence, mais c'est normal. Voire on vous dit c'est pour hier. Bon. Donc, il y a l'idée que l'urgence a sa légitimité en tant que phénomène exceptionnel, mais qu'elle devient plus problématique quand elle s'impose comme un mode de fonctionnement, comme une sorte de climat, on pourrait dire. Et dernier point sur ce concept, il faut distinguer aussi urgence et vitesse. Souvent, on trouve des essais qui critiquent la vitesse ou l'accélération. Mais je dirais que dans toute situation d'urgence, vous avez de la vitesse et de l'accélération, parce que vous devez vous presser. Mais on peut très bien avoir des situations de vitesse ou d'accélération, si vous prenez l'avion, le train, qui n'impliquent aucune urgence, parce que justement, il n'y a pas cette notion de menace, de deadline. Et c'est un point important, parce que si on confond les deux, on va se dire, essayer de critiquer l'urgence, ça va être renoncer à prendre l'avion, revenir au Minitel, parce que le haut débit, c'est de la vitesse aussi, c'est de l'accélération, alors qu'on est complètement à côté du problème, et donc il ne faut pas se tromper de cible entre urgence et accélération. Il y a même un essayiste qui s'est lancé dans une critique du grand accélérateur de particules, parce que c'est la vitesse et l'accélération. Mais évidemment, ce n'est pas le point. Bon. Je mentionne juste deux idées. D'abord, il y a un paradoxe de l'urgence que j'ai évoqué, puisque les individus ont un sentiment de manque de temps, mais le nombre d'heures disponibles dans la vie d'un individu entre le début du 19e siècle et du 20e siècle et maintenant a été multiplié par 4 de par l'augmentation d'espérance de vie et de par la réduction de temps de travail. Donc, et je ne pense pas que l'urgence soit qu'un sentiment. Donc il y a ce paradoxe à examiner, je n'ai pas le temps de le faire. Et en conclusion, je dirais juste que je reprendrai l'essai de Heidegger qui cite ce vers du poète allemand Hölderlin qui dit « Mais là où est le danger, là aussi croit ce qui sauve. » Et si on implique l'esprit de ce vers au problème, je dirais que évidemment le problème de l'urgence, si on considère qu'il y a un problème, c'est-à-dire que l'urgence produit des dégâts, je n'ai pas eu le temps d'évoquer cet aspect, mais si on considère qu'il y a un problème, il faut essayer de le résoudre. Et évidemment, je pense que ça ne peut pas se résoudre tout seul, mais il me semble que l'urgence a atteint un point critique qui fait qu'il y a une prise de conscience qui se traduit par des essais, des réflexions de philosophes, de sociologues. Et cette prise de conscience peut être le début d'un processus de transformation des sociétés par rapport au temps. Et je dirais, qu'est-ce qu'on peut mettre pour contrebalancer l'urgence comme norme sociale du temps ? Je dirais pas tant la lenteur. Vous savez, il y a des essais sur l'éloge de la lenteur, de la paresse. Mais moi, je pense que ce qui permet de contrebalancer l'urgence, c'est plutôt l'idée de durée, le durable, avec donc les notions de développement durable. Donc, essayer de pondérer l'urgence par le durable, finirai sur cette remarque. Merci.
Merci beaucoup. Alors, nous ne sommes pas encore tout à fait dans l'épuisement de notre ressource naturelle, notre ressource temporelle. Mais nous avons le temps pour une ou deux questions et nous raccourcirons la pause café à quelques minutes.
Oui, je voudrais revenir sur la cible que vous avez écartée, c'est-à-dire les nouvelles technologies par rapport à ce que vous présentez. Êtes-vous sûr que ces accélérations en temps et en quantité qui ont quand même pour conséquence de nous couper de l'espace justement, c'est-à-dire que l'accélération du temps crée une coupure entre notre temps et notre espace. Vous disiez vous-même avec un exemple, quelqu'un qui est là mais qui n'est pas là. Hein? Donc êtes-vous sûr, y a-t-il des études sur la maîtrise de l'impact que ces accélérations et quantités de temps pluriel que l'on gère dans un espace où on n'est plus à ce moment-là n'ont pas un impact sur l'urgence généralisée? Est-ce qu'on maîtrise les outils qu'on utilise et leur impact sur notre rapport au temps et à l'espace et à cette dissociation éventuelle de l'espace et du temps, même si la communication s'accélère?
Disons que je ferai deux remarques. D'abord, il faut se méfier de la formule, mais qui est très souvent employée, y compris par Armut Rosa, d'accélération du temps, puisque je pense qu'il y a des physiciens dans la salle, l'accélération du temps n'a pas de sens, au sens où l'accélération se définit, c'est une augmentation de la vitesse, et la vitesse se mesure par le temps, donc accélération du temps, c'est circulaire. Maintenant, il y a accélération du rythme de vie, voilà, en ce sens, disons que l'expression a un sens. Mais je dirais que ce que j'ai voulu dire en distinguant vitesse et accélération, c'est que finalement, tous ces nouveaux outils de communication qui permettent donc de communiquer plus vite, ils pourraient nous faire gagner du temps en réalité. Hein, par exemple, faire un email prend moins de temps que d'écrire une lettre. Hein, mais simplement, ils sont utilisés par certaines méthodes de management et par une sorte d'évolution systémique de la société pour, à l'inverse, surcharger les cadres. Et donc, il y a des études qui montrent que l'utilisation de cette technologie ont considérablement augmenté la charge de travail des cadres. C'est ça la conséquence. Et avec même des études en droit du travail, où on commence à se dire, mais vraiment, la limite entre temps de travail et temps de vie privée devient complètement poreuse, et il faut redéfinir tout ça, parce que le temps de travail du cadre effectif n'a plus rien à voir avec ce qu'il y a dans son contrat. Hein. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des objets qui sont fabriqués dans le but direct de gagner du temps. Par exemple, le BlackBerry permet de gagner 60 minutes par jour de temps de travail d'un cadre. C'est dans la publicité de l'objet. Bon. Maintenant, si on l'utilise de manière intelligente, mais encore faut-il pouvoir le faire, on peut gagner du temps avec ces outils. Hein. Donc, évidemment, la technique n'est pas complètement neutre, mais si vous voulez, pour moi, la critique de l'urgence, ça ne consiste pas à dire il faut interdire les BlackBerry ou les haut débit, ça consiste par exemple à dire, et ça c'est une proposition d'un juriste qui s'appelle Jean-Emmanuel Rey, qui est professeur de droit à Paris 1, il dit qu'il faudrait instaurer un droit à la déconnexion, le soir, le week-end, pendant les vacances. Voilà, ce genre de choses.
Merci beaucoup. Merci à tous. Et merci. Nous... À